Frères et sœurs bien-aimés, en ce dimanche, nous contemplons le Seigneur qui est la vérité. Il se présente à nous dans l'Évangile en disant « Et moi, je suis le chemin qu'il faut donc emprunter. Je suis le chemin, je suis la vérité. Je ne vais pas vous tromper sur le chemin que vous allez emprunter à ma suite. Je suis le chemin, je suis la vérité. » Je suis la vie que nous partageons chacun, mais surtout la vie du monde à venir. Le Seigneur est le chemin que nous empruntons ici-bas. Il est cette vérité, cette authenticité que nous recherchons ou que nous devons rechercher même en chacune de nos actions. Et il est la vie, cette vie véritable. C'est un des noms de Dieu dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau, jusque dans le livre de l'Apocalypse. Dieu se présente à nous en disant « Je suis le vivant ». Pour que nous ayons cette vie éternelle qui déjà passe en nous, relisons l'histoire sainte. Dans la première épître que nous avons entendue, il est question de la loi. La loi est ce qui permet de borner notre chemin pour ne pas tomber dans des comportements qui ne siéraient pas à la dignité humaine. Moïse, qui vit en des temps entourés, où on recherche la vérité à la manière des philosophes grecs, une vérité qui peut être extérieure à l'homme, Moïse affirme bien que la loi qui vient de Dieu, non seulement elle n'est pas au-delà de nos forces, elle n'est pas non plus à chercher en haut, en bas, sur d'autres côtés, mais cette loi, nous dit Moïse, est d'abord inscrite au plus profond de nous. En effet, au commencement, lorsque Dieu créa le ciel et la terre, il ne se contenta pas d'ordonner rien de moins que l'univers pour nous, il donna également à cet univers un ensemble de mouvements, de rythmes, d'harmonies que nous appelons les lois de la nature. De même, il y a cette loi qui est inscrite en nous, qui fait que nous ne sommes pas seulement des animaux, qui fait que nous avons une dignité qui est comme enracinée dans cette conscience que le bon Dieu nous a donnée. Contrairement aux animaux, non seulement nous savons qu'un jour nous allons mourir, nous savons aussi que dans les différentes actions que nous aurons à poser, il ne s'agit pas seulement d'agir avec instinct, il s'agit tout autant d'agir avec notre raison. Lorsque Dieu crée l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance, avant le péché donc, il procède de l'immense bonté de Dieu. Ils ne connaissent et ne pratiquent que le bien. Étant donné qu'on est avant le péché, il n'y a rien dans l'âme d'Adam et Ève, nos premiers parents, qui vient étriquer cet amour de Dieu et cet amour du prochain. Leur conscience est dans l'action de grâce face à l'œuvre du Créateur, qui, par une providence spéciale, eh bien, veille sur eux. La conscience d'Adam et Ève est droite, elle vise le bien. Mais dans l'exercice de la liberté, voilà qu'arrive le règne du péché. Eh bien, le bon Dieu ne dit pas « à mort Adam et Ève, il en est terminé du genre humain, comme à sa source ». Non, le bon Dieu, permettez l'expression qui est un peu maladroite, change son fusil d'épaule, c'est-à-dire eh bien que puisqu'il ne pourra pas les sauver en étant seulement dans le régime du bien, puisque par la liberté ils ont fait l'expérience du mal et que le mal est entré en nous, il va falloir éduquer. Mieux que cela, il va falloir élever le genre humain tombé dans le péché. Il va falloir l'éclairer. Au commencement, vous disais-je, c'est ce que rappelle Moïse, la loi est à l'intérieur de la conscience de nos premiers parents. Il en reste quelque chose après le péché, mais ce n'est plus avec la même facilité que l'on accomplit le bien. D'ailleurs, dans la tradition païenne, on s'étonnait d'un fait. Comment se fait-il que les dieux, puisque c'était des païens, que les dieux, devant la vie bonne, devant la vertu, aient mis la sueur? Qu'est-ce que c'est dur de bien agir? Bien plus dur que de mal agir. Et toute l'œuvre pédagogique de Dieu à notre endroit, toute l'œuvre pédagogique de nos parents à notre endroit, qui sont là pour nous éduquer et nous élever, est là pour nous rappeler un certain nombre de principes qui sont là pour éclairer notre route. Voilà pourquoi dans l'Ancienne Alliance, Dieu va manifester cette loi en la rappelant, en la confiant, en l'éclaircissant comme autant de bornes pour guider notre chemin. Ce sont les 10 commandements. Eh bien, les 10 commandements commencent, les 3 premiers d'entre eux, par nous parler de l'amour de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme. Tu n'invoqueras pas en vain le nom de Dieu. Dieu mérite le respect, car si vous ne respectez pas Dieu, alors tout va s'effondrer autour de vous. Si vous honorez Dieu, alors se distinguera clairement le bien du mal. Mais s'il n'y a plus de Dieu, nous le voyons dans le monde dans lequel nous sommes, la frontière entre le bien et le mal semble ne plus exister. Et ce qui fait la dignité de l'homme debout, à l'image et à la ressemblance de Dieu, finit par ressembler à un homme à 4 pattes, comme un animal. Alors Dieu rappelle au peuple d'Israël, et à travers lui déjà à tous les peuples du monde, cette loi naturelle inscrite dans nos âmes. Voilà comment Moïse reçoit ces tables de la loi. D'abord l'amour de Dieu, et dès le 4e commandement, l'amour du prochain. Tu honoreras ton père et ta mère au sens large, tu honoreras ta parenté. Et ensuite, tous ces commandements nous parlent du juste rapport que nous devons avoir à l'endroit du prochain. Ne pas voler, par exemple. Ne pas le tuer. Et tout cela n'est pas d'une grande révélation divine, car par notre raison, même si c'est avec beaucoup plus de difficultés, avec même notre expérience, avec nos actions, nous comprenons qu'il n'est pas bon de tuer son prochain, car je risque en retour d'être tué. C'est la loi du plus fort qui a ses limites. Alors le bon Dieu, dans l'Ancienne Alliance, rappelle ces 10 commandements qui nous disent déjà l'amour de Dieu en sa primauté et l'amour du prochain. Dans l'Ancien Testament, voilà que Dieu manifeste qu'il faut aimer Dieu et il faut aimer le prochain, c'est tout le résumé de la loi, comme on s'aime soi-même. Voilà que Dieu agit avec pédagogie. D'abord, aimer le prochain comme je m'aime moi-même, pour établir un équilibre. Ce qui est d'abord donc fondamental dans l'amour, qui peut nous paraître étrange, c'est que ce qui est premier dans l'amour, c'est d'abord de s'aimer soi-même dans une juste mesure. Dans une juste mesure, vous comprenez que si on s'aime avec excès, il ne s'agit plus de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, du narcissisme. Rappelons-nous la fable de Narcisse qui se trouve en si beau, étant pourtant mort de soif dans le reflet de cette eau, meurt car il ne peut tolérer que son image soit altérée par le fait de prendre de l'eau. C'est une image symbolique, c'est un mythe. Nous comprenons que ce n'est pas de cet amour-là que nous devons nous aimer. Mais toute personne peut être blessée par l'amour, et l'amour le plus intime, l'amour familial peut-être, peut avoir qu'il y a du mal à s'aimer soi-même, aura beaucoup plus de mal à se faire aimer des autres. Ce qui est donc fondamental, c'est d'abord l'amour légitime de soi. Mais le Seigneur de l'Ancien Testament nous fait passer au Nouveau Testament. Il ne va plus seulement s'agir d'aimer le prochain comme on s'aime soi-même. C'est le œil pour œil, dent pour dent de la rétribution de la justice, rétablir l'équilibre du délit, de l'infraction. Il va s'agir d'aimer comme Dieu nous aime. Alors là, nous avons besoin d'autres secours que ceux de la seule nature, parce que la perfection de cet amour-là, elle appelle en notre conscience la grâce, la force de Dieu. Lorsque notre Seigneur Jésus le Christ, pour venir nous sauver du péché, de tous ces manquements à la loi de Dieu, aux lois même parfois de la nature, eh bien voilà que le bon Dieu décide de devenir homme tout en demeurant Dieu. De telle sorte que le mystère de notre Seigneur Jésus le Christ, c'est qu'il réunit en lui-même et l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Il demeure Dieu et nous invite à aimer Dieu, nous le voyons se mettre à l'écart pour prier son Père dans le Saint-Esprit. Mais nous le voyons aussi manifester l'amour qu'il peut avoir pour nous, un amour même qui peut étonner, qui a étonné ses contemporains. Il fait bon accueil aux pécheurs. Et pour bien faire comprendre que cet amour de Dieu et cet amour du prochain sont comme le revers de la même médaille, de la même pièce, eh bien voilà que le Seigneur Jésus va donner un exemple, la parabole du bon samaritain. Nous avons entendu le contexte, c'est un docteur de la loi, spécialiste donc, à partir de ses 10 commandements, de comment faut-il vivre, par exemple, l'honneur que nous devons à nos parents, dans telles circonstances, etc. Eh bien, tout cela est thématisé. Une partie se trouve dans les Saintes Écritures, révélée par Dieu, mais une autre tient de la tradition des hommes. Le Seigneur Jésus, vous ferez attention, lui a dit « Comment lis-tu ? Quelle interprétation donnes-tu de la loi ?» Eh bien, voilà que le Seigneur veut nous donner cette image à un spécialiste de la loi, à un prêtre, à un lévite, ceux qui, par vocation, sont au service même de Dieu et de sa loi. Et à côté de cela, celui qui va donner un exemple, c'est le cousin germain qu'on n'aime vraiment pas en Israël, c'est le Samaritain. Parce que le Samaritain, il a pris la loi de Dieu, et puis il en a pris un peu chez les païens, il a l'unicité de Dieu, mais il fait aussi bon accueil aux idoles païennes. Le Samaritain est mis de côté. D'ailleurs, il ne prie pas à Jérusalem, il a son propre temple. Et bien voilà que le Seigneur Jésus, comme pour irriter ce docteur de la loi, va prendre en exemple le Samaritain. Cet homme est blessé sur le bord du chemin, roué de coups. Donc, le sang a coulé. Mais voilà pourquoi le prêtre, voyant cette personne pleine de sang, le contourne scrupuleusement, sinon il ne pourra pas exercer son ministère sacerdotal au temple de Jérusalem, car la perte de sang est un signe d'impureté. De même en est-il pour le Lévite. Il passe de l'autre côté, le contourne, parce que dans leur conception de la loi, Dieu n'a pas donné autant de précision, dans leur conception de la loi, s'approcher du sang, signe d'impureté, me met au banc de la communion avec Dieu. Je ne peux pas exercer le culte dans le temple de Jérusalem. Et le Seigneur Jésus de dire, regarde donc ce Samaritain à la foi pas très orthodoxe. Eh bien lui, il descend, il s'arrête, il en prend soin. Et même, il va payer très largement. Souvenez-vous, dans une autre parabole, celle qui a perdu une pièce d'argent, elle allume des lampes. En ce temps-là, il ne s'agit pas d'appuyer sur un bouton. Elle met des frais pour retrouver la pièce perdue. Là, il donne 2 pièces d'argent. Il dépense une somme importante pour prendre soin de cet homme qu'il ne connaît ni Adam ni Ève. Eh bien, voilà que le Seigneur veut nous faire comprendre que nous devons aimer comme Dieu nous aime. Certes, nous devons nous aimer dans une juste mesure, mais nous devons aussi ouvrir notre âme à l'amour de Dieu qui est fondamental, c'est cette ouverture à la transcendance de Dieu qui est la clé de voûte de toute civilisation, mais nous devons en même temps montrer à Dieu combien nous l'aimons en manifestant cette bonté à l'endroit du prochain. Alors chacun d'entre nous, nous mesurons en courbant la tête combien cette perfection de la loi est dure. Eh bien, nous demandons au Seigneur de nous envoyer sa grâce puissante pour nous aider à nous dépasser. Et le cortège des saints que nous vénérons ont été capables, à un moment donné, de poser des actes héroïques. Nous pensons par exemple, cela me vient à tête maintenant, à saint Maximilien Kolb, prêtre, catholique, polonais. Alors ça fait 3 choses que les nazis n'aimaient pas, envoyés dans les camps de concentration. Et voilà que un prisonnier s'étant échappé, la règle étant pour un prisonnier échappé, 10 fusillés, voilà que l'on prend parmi ces 10 un père de famille qui laisse son petit enfant. Eh bien, Maximilien Kolb, habité de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, n'a pas peur de faire un pas et de se présenter en substitution de ce père de famille, parce que ce petit enfant aura besoin, surtout dans les camps de la mort, de son père pour ne pas désespérer. Et étonné d'un tel geste, voilà que les nazis ne répondent à rien et vont prendre Maximilien Kolb à sa place. C'est un exemple extrême, vous en conviendrez, c'est un exemple édifiant d'un des saints de notre famille. Mais nous voyons aussi que dans notre vie quotidienne, eh bien, il y a aussi parfois bien de l'héroïcité à répondre par la patience à un certain nombre de choses qu'on nous exige. Ça demande aussi beaucoup d'héroïcité pour des parents que de voir des fois leurs enfants aller sur des chemins dont ils savent pertinemment qu'ils ne sont pas le bon. Eh bien, nous confions tout ça au Seigneur, qu'il nous aide à l'aimer de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre âme, qu'il nous donne aussi de pouvoir aimer notre prochain comme le bon Dieu nous aime, car c'est à cet amour que nous aurons les uns pour les autres, nous dit le Seigneur, que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Et c'est en nous ressaisissant, nous, peuple de France, de cette loi d'amour de Dieu et du prochain, que notre civilisation qui s'effrite retrouvera alors cette sève qui a permis à notre France, eh bien, de manifester à travers les âges l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Puisse la Vierge Marie venir à notre secours, ainsi soit-il.